France Musique.
Je savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
You're not Rosebud, are you?
What?
Rosebud. And your name is Jennings, isn't it?
Yes, sir.
Goodbye, everybody.
Isn't that because her family changed their name from Albrecht? Or do you think it's because all the you girls are bitches?
I guess.
Yeah, I think Paige is the same.
Monsieur, pardon. Vous n'avez rien contre la jeunesse.
Si, moi j'aime bien les vieux.
Dites-toi là. この辺にも出世にもならん難しい戦があるんだがついてくるかはい
Did you find what you were looking for?
No, with two shots in his back and one in his stomach. Nobody important really.
Cinéma Song par Thierry Jousse.
Aujourd'hui, Bowie comme Bowie au cinéma. Bonsoir, très riche menu ce soir pour Cinéma Song. À tout seigneur, tout honneur, nous serons d'abord en compagnie de David Bowie, en tout cas de ses chansons, puisqu'à l'occasion de l'exposition que lui consacre la Philharmonie de Paris, j'ai décidé d'explorer les relations entre Bowie et le cinéma, à la fois comme acteur, mais surtout comme pourvoyeur de musique pour les films au hasard de David Lynch, Paul Schrader, Léo Scarrax ou Bernardo Bertolucci. Nous retrouverons ensuite Charles-Pierre Vallière pour sa chronique Essentiel BO, consacrée ce soir à Good Kill, le nouveau film d'Andrew Niccol, puis nous filerons à Aubagne, où a eu lieu récemment l'excellent festival de musique de film, et nous y retrouverons le compositeur Marc Marder qui dirigea Demain de Maître, une masterclass de jeunes musiciens. Et c'est Benoît Basirico qui mettra un terme à ce festin avec sa chronique mensuelle au micro de Cinésique, où il sera question de quelques BO françaises récentes. Mais en attendant tout cela, mon actualité, c'est d'abord ceci. un extrait pour commencer ce cinéma song de Sayat Nova, le film de Sergueï Paradjanov, qui s'appelait de son vrai nom Sergueï Paradjanian, puisqu'il était arménien et il a vécu dans l'Union soviétique et en Géorgie aussi plus particulièrement. Sayat Nova, c'est un film complètement étonnant et unique en son genre, qui raconte, si on peut dire, la vie d'un poète arménien qui s'appelait Sayat Nova au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle d'ailleurs plus précisément. Et c'est Sergueï Paradjanov, qui est un cinéaste très particulier, raconte cette vie avec des tableaux vivants qui ressemblent à des enluminures. Enfin, c'est un film totalement unique, une expérience quasi hypnotique où il y a très peu de dialogue, beaucoup de musique. Alors, vous avez entendu cette musique religieuse qui précisément fait écho aussi au fait que Sayat Nova, ce poète, a vécu un certain nombre d'années dans un monastère. Et le film ressemble, voilà, on a l'impression de voir des icônes animées. C'est très étonnant. Et c'est un film qui ressort très certainement en lien avec l'anniversaire du génocide arménien. Donc le centenaire dont on parle beaucoup en ce moment, à juste titre, même si le film n'a pas de rapport direct avec cette question-là. C'est vrai que c'est par ailleurs un film qui a été persécuté par la censure en Union soviétique à l'époque, à la fin des années 60. Le film date de 1969. Il a été remonté, ressorti en 71 sous un autre titre. Couleur de la grenade, on l'a finalement vu vraiment sous sa forme définitive dans les années 80. Voilà, en tout cas, ça vaut vraiment le coup d'aller le voir en salle, parce que c'est un film absolument splendide d'un point de vue visuel et d'un point de vue musical et sonore également. Vous entendrez ce type de musique-là, par exemple, enfin, ce que vous venez d'entendre, en l'occurrence, dans le film. Alors, à part Sayat Nova, je voulais rendre hommage à un très grand cinéaste disparu le 2 avril dernier. On n'avait pas eu l'occasion de le faire puisque nous n'étions pas à l'antenne, pour les raisons que vous savez, la grève à ce moment-là. Donc, on va rattraper cet oubli. Manuel de Oliveira, cinéaste portugais, disparu à 106 ans révolus. C'est vraiment un record. Il a pratiquement fait des films jusqu'à la fin de sa vie. C'était le dernier cinéaste qui avait tourné son premier long métrage, ou son premier film en tout cas dans le muet, Douro Faina Fluvial, donc qui était un film de 1929. Et bon, Manuel de Oliveira, c'est difficile de résumer sa carrière en 1 minute 30, mais enfin, on va citer quelques très grands films de Manuel de Oliveira: Amour de perdition, Francisca, son adaptation monumentale du Soulier de satin de Claudel, Non ou la vaine gloire de commander, qui a fait un magnifique film sur les guerres coloniales du Portugal à différentes époques, Le jour du désespoir, le magnifique film avec Michel Piccoli dont le titre va me revenir, Je rentre à la maison. Enfin bon, voilà, on pourrait en citer beaucoup. Il a beaucoup travaillé avec un compositeur portugais qui s'appelle João Paes, notamment dans les films qu'il a fait dans les années 80, puisque c'est un cinéaste qui a tourné tard finalement. Il a fait peu de films dans la première partie de sa vie. Il a surtout accéléré le rythme à partir de 1979, alors qu'il avait déjà 70 ans. Et finalement, il a fait l'essentiel de sa carrière dans les 30 dernières années de sa vie. C'est quand même un cas très particulier. Alors, il a fait un film dont il faut parler et dont je voulais vous parler plus particulièrement pour lui rendre hommage, puisque c'est un film musical. C'est Les Cannibales, film totalement étonnant et extrêmement étrange, qui est un opéra filmé, on pourrait dire, mais écrit pour l'écran. D'ailleurs, notre camarade Xavier Atto, qui est à la technique ce soir, a participé à sa façon à ce film. Voilà, je l'ai appris ce soir en allant dans le studio. Et c'est un film très très étonnant qu'on voit peu, qu'il faut redécouvrir. J'ai récupéré un DVD au Portugal de ce film, parce qu'en France c'est quasiment impossible. Je vous propose d'écouter un extrait de cet opéra où effectivement des personnages de l'aristocratie portugaise se transforment tout simplement en cannibales. Esta vida es carne o sangrento que se debe pagar con otros carnes. As lágrimas das falas das mulheres, para que não se diga que todos les tiramos. Nos teus serenos filhos, que importa que ouves como, entendais sim. Comemo-lo, comemo-lo, e nem nos soube bem. Comemo-lo, comemo-lo, e nem nos soube bem. Que importa se perdi a minha filha querida, Margarida perdida, e como perdi eu, e quando, e em que lugar?
confiante na bondade de Deus Pai, pedi-lhe a morte. Em vão, neste espírito todo poderoso, tirânico, cruel, que não tendo rogos de um pobre velho honrado, negando-lhe a morte, só está a pedir blasfémias. A minha é breve, adeus. Suicido-me.
O quê? O pai também?
Sim, mato-me. Estou farto. Preciso de descanso.
Se o pai se mata, nós acompanhamo-lo.
Obrigado, seja. Acabe-se a linhagem nos solares. Matemo-nos.
Matemo-nos. Acompanhemo-lo.
Margarida, espera por nós.
Já juntarmo-nos a mana.
O pior é o visconde.
Comemo-lo,
comemo-lo.
Um momento, uma palavra
breve.
O visconde era multimilionário.
Sim.
Disse sempre que não tinha mais família.
Não.
Sua esposa legítima morreu.
Foi carinha.
Logo.
Juntemo-nos a mandar.
Nada disso.
Logo.
Logo. Em princípio, e até prova em contrário.
Sim.
Somos nós os legítimos herdeiros.
Nós.
Nós.
Os seus.
Mas há dificuldades.
Quais?
Quais? O cadáver está irreconhecível.
Comemo-lo.
Então
un extrait de cet étonnant film un peu méconnu, bien qu'il était en compétition au Festival de Cannes à l'époque en 1988, Les Cannibales de Manuel de Oliveira, pour rendre hommage au grand cinéaste portugais qui a fait pas mal de films dans les 30 dernières années de sa vie, je le disais. Parmi les films que j'ai pas cités, il y avait également la suite de Belle de Jour, du Belle de Jour de Buñuel, Belle Toujours, avec Michel Piccoli et Bulogier, par exemple, dans les films, disons, relativement tardifs de Manuel de Oliveira. Enfin, on peut pas évoquer l'essentiel de sa carrière, l'ensemble de sa carrière, mais Les Cannibales, qu'on pouvait qualifié d'opéra bouffe, ça tombe bien pour étant donné le titre du film, est un des films d'Olivera les plus fous, on pourrait dire, en tout cas entièrement chanté avec cette musique de Juan Paes. Alors on va terminer cette séquence d'actualité qui nous fait voyager d'Arménie au Portugal et on va arriver en Californie pour finir quand même, avec la ressortie la semaine dernière de deux films jumeaux, puisqu'ils sont tirés de la même matière littéraire, Les Tueurs de Robert Siodmak, un classique du film noir The Killers en 1946 avec Burt Lancaster et Ava Gardner, et son remake en quelque sorte en 1964, le film de Don Siegel avec Lee Marvin, Angie Kinson, John Cassavetes et Ronald Reagan, faut pas l'oublier même s'il fait pas un rôle énorme, et donc une histoire de tueurs à gages qui viennent assassiner un personnage au début du film, et on saura pourquoi au fil du temps, parce que ce personnage se laisse tuer. Je ne raconte que les 10 premières minutes du film, et de ce personnage c'est John Cassavetes, ancien coureur automobile dans le film. Enfin, je vous raconte pas toute l'histoire parce que ça vaut vraiment le coup de découvrir, comme dans tous les romans noirs ou les films noirs, de quoi ça parle. Et il y a une musique remarquable du très jeune, enfin du encore jeune Johnny Williams, qui deviendra plus tard John Williams, on le connaît bien pour des raisons liées à beaucoup de films, mais c'est le Johnny Williams des débuts, donc un John Williams assez jazz, assez influencé par Mancini. D'ailleurs, dans le film, on peut également voir la grande chanteuse Nancy Wilson chanter une chanson d'Henri Mancini, donc rien que pour ces raisons-là, ça vaut le coup de le voir. Je vous propose d'écouter le début de ce film de Don Siegel à bout portant, 1964. Thank you.
a big shot, but you're a little nut. Baby, you did!
May I help you, please? May I help you, please?
We're looking for a Jerry Nichols. Does he work here?
Oh, yes, indeed.
Where is he?
Well, I'm afraid you won't be able to see him now. He'll be in class another hour and a half.
I'm sorry, lady. We don't have the time. Where is he?
Why, I told you he's teaching his class in a...
Where is he, lady?
He's upstairs.
All right, you just sit there, relax, take a little nap. Everything's going to be all right. Do you understand?
Mr. Malady!
L'ouverture du film À bout portant de Don Siegel, où l'on voit deux tueurs à gages, interprétés par Lee Marvin et Clou Gallagher, rentrer dans une institution pour aveugles à la recherche d'un personnage donc, qui s'appelle Johnny North, et c'est John Cassavetes, tout simplement pour le tuer, bien sûr. Avec donc la musique de John Williams, qu'on a pu entendre donc au générique de ce film. J'ai oublié de préciser qu'il s'agissait quand même, ce film, comme son prédécesseur, Les Tueurs de Robert Siodmak, qui était adapté de la même nouvelle de Ernest Hemingway, c'est quand même pas n'importe qui, et c'est un film en couleur qui avait été réalisé quand même initialement pour la télévision, mais ça ne se voit que très très peu. On a vraiment le sentiment de voir un grand film de cette période, qui n'est une période un peu charnière dans le cinéma américain, avant disons l'irruption du nouvel Hollywood et à la fin disons de la période classique. Donc un film important que je vous engage, et extrêmement agréable à regarder et à entendre, que je vous engage à aller voir dans les salles où il est projeté. Duh, duh, duh. I'm Deranged pour commencer cette petit survol du rapport entre Bowie et le cinéma. I'm Deranged, qui est un morceau qui figure à la fois dans l'album Outside en 1995, mais également sous la forme courte dans la bande originale de Lost Highway de David Lynch. On se souvient peut-être du début du film où une voiture roule dans la nuit très vite et la musique de Bowie accompagne cette course un peu hypnotique, et elle va d'ailleurs parfaitement bien, cette chanson de Bowie, avec ses images de David Lynch. David Bowie qui avait d'ailleurs fait une apparition également dans le Twin Peaks Fire Walk With Me quelques années auparavant. David Bowie qui a été donc acteur à un certain nombre de reprises, on l'a évoqué il n'y a pas si longtemps à propos de Nagisa Oshima pour Furio, mais on peut citer quelques films importants de la filmographie de David Bowie acteur, L'Homme qui venait d'ailleurs, donc Furio précisément, Absolute Beginners, son rôle de Ponce Pilate dans La Dernière Tentation du Christ de Scorsese, Andy Warhol dans Le Basquiat, on y reviendra, et bien sûr Les Prédateurs également de Tony Scott avec Catherine Deneuve, évidemment un duo extrêmement glamour de David Bowie 1983 et Catherine Deneuve, c'est pas mal. Et on va évoquer surtout d'ailleurs les chansons de David Bowie qui figurent dans des bandes originales de films. Il y en a beaucoup de cinéastes aiment David Bowie et beaucoup de monde aime David Bowie, moi le premier. C'est la raison pour cette émission, est un peu un prétexte pour une fois pour passer des chansons de David Bowie dans Cinéma Song. Et puis évidemment cette très belle exposition à la Philharmonie de Paris qu'il faut aller voir, qui a été créée, enfin dont la première apparition était à Londres il y a 2 ans je crois, ou 3 ans, et qu'on peut voir en ce moment à Paris, donc ça vaut vraiment le coup d'y aller. On va continuer alors cette brève traversée, je disais, de la filmographie, enfin si on peut dire des chansons de Bowie dans les films, avec un extrait de la bande originale de Christian F, Droguée prostituée. On se souvient peut-être de ce film du début des années 80, film allemand dans lequel Bowie apparaît d'ailleurs dans son propre rôle. Et la bande originale, ce sont essentiellement des morceaux des albums de la trilogie berlinoise de Bowie, Heroes, Low et Lodger, enfin Heroes et Low essentiellement. Et on écoutera également un morceau qui figure dans la bande originale du Basquiat, donc film où, dont je le disais, David Bowie joue le rôle d'Andy Warhol, et ça c'est un morceau qui s'appelle A Small Plot of Land et qui figure également dans l'album Outside, produit d'ailleurs par Brian Eno. Point commun entre la trilogie berlinoise et cet album Outside. Petite erreur de ma part, ça n'est pas les morceaux que j'ai annoncés que vous entendez maintenant, mais vous allez l'entendre après, c'est plus exactement Putting Out of Fire, le morceau qui figure dans la bande originale de Cat People de Paul Schrader et que d'ailleurs Quentin Tarantino a repris dans Inglourious Basterd, musique de Giorgio Moroder.
It's just the fear of losing you. Don't you know my name? Well, you've been so long, and I've been putting out fire. With gasoline. It's been so long.
heart that can never mend, his tears can never dry. The judgment made can never bend. See these eyes so green, I can't stare for a thousand years. Just be still with me, you wouldn't believe what I've been through.
Voilà, donc c'était bien Putting Out Fire, le morceau, la chanson de Cat People de Paul Schrader, le remake du film de Jack Tourneur en 1982 avec Nastassia Kinski et Malcolm McDowell. Je le disais donc dans ma brève introduction, enfin plus exactement pendant le morceau, la musique était signée Giorgio Moroder, la musique du film d'ailleurs en entier était signée Giorgio Moroder, un film qu'il faut redécouvrir d'ailleurs. On en avait parlé la saison dernière à propos de Paul Schrader. Et voilà, donc c'était et cette chanson donc a été reprise, réutilisé par Quentin Tarantino dans un contexte totalement différent pour Inglourious Basterds, notamment c'était un plan sur Mélanie Laurent, si on se souvient de ce film de Quentin Tarantino. Alors maintenant, on va vraiment passer au morceau que je vous avais annoncé tout à l'heure par mégarde. J'ai sauté une ligne dans mon conducteur, c'est-à-dire la liste des morceaux qui doivent passer ce soir. Et on va écouter donc, je le disais, je le redis, donc V de Schneider, qui est un morceau donc de la bande originale de Christiane F. Drogué et prostituée, film assez célèbre en son temps, qui est un petit peu oublié aujourd'hui, 1981, autour des milieux berlinois, voilà, drogue, prostitution et ainsi de suite, dans lequel, donc, je le disais, David Bowie fait une apparition dans son propre rôle, et puis Small Plot of Land, un morceau qui figure dans sa version longue dans l'album Outside, donc produit par Brian Eno, dans la bande originale de Basquiat, le film de Julian Schnabel, le très beau film d'ailleurs du peintre Julian Schnabel, dans lequel David Bowie fait un très très convaincant Andy Warhol, mais c'est pas très étonnant parce qu'Andy Warhol était un des maîtres, si ce n'est le modèle numéro un de David Bowie. Il lui a même rendu hommage dans une chanson qui figure dans l'album Hunky Dory, mais pour l'instant V de Schneider et A Small Plot of Land. We'll be right back.
upon that poor soul. He never knew so what hit him, and it hit him so. Poor dumb soul, he pushed at the pig man. The fool is dead. Poor dumb soul, he's less than within us. The brains talk, but the will to live is dead. And prayer travels so far. The talk of your life, standing so near to innocent eyes. Poor dance. Swings through the tunnels and claws his way. Is small life so manic? Are these really the days?
Small Plot of Land, version courte, puisque la version plus longue figure dans l'album Outside. C'était dans la bande originale de Basquiat, où on peut entendre du Tom Waits, du John Cale, du PJ Harvey, du Grandmaster Flash ou des Public Image Limited, cette biographie donc de biopic très beau de l'artiste Jean-Michel Basquiat, donc dans laquelle, je rappelle, David Bowie interprète le rôle de Andy Warhol, et auparavant V. de Schneider, extrait initialement de l'album Heroes, donc produit par Brian Eno, comme d'ailleurs A Small Plot of Land, extrait de la bande originale de Christiane F., Drogué prostituée, un film de Uli Heidel, 1981, tiré d'ailleurs d'une histoire vraie. Alors il y a beaucoup de cinéastes, je le disais, qui ont aimé utiliser David Bowie dans leur film. On peut citer par exemple Lars von Trier, qui utilise Young Americans à la fin de Manderley, ou Life on Mars dans Breaking the Waves, dans les tableaux qui ponctuent le film. On peut citer également le film Control, le biopic de Ian Curtis, le leader de Joy Division, le film donc où on peut entendre Driving Saturday de Gene Jenny et Varsava, donc trois morceaux de David Bowie, même si c'est un film sur Ian Curtis, mais Ian Curtis était un amateur de David Bowie, comme tous les punks et ceux qui feront la New Wave ensuite. David Bowie est une des grandes références de cette période, lui qui était une figure du glam rock. On aurait pu également évoquer le film Velvet Goldmine de Todd Haynes, qui parle beaucoup de cette période, mais que David Bowie n'aime pas beaucoup, et d'ailleurs il n'y avait aucun morceau de David Bowie dans la bande originale de ce film. Alors pour illustrer, on va dire, cette partie de la carrière de Bowie qui n'est pas tellement la sienne, plutôt celle de la façon dont les cinéastes l'utilisent, j'ai pensé plutôt à Léo Scarrax, qui est un grand amateur de David Bowie, puisque dans Boy Meets Girl on peut entendre When I Live My Dream, et surtout dans Mauvais Sang on peut entendre la chanson Modern Love, qui est extraite initialement de l'album Let's Dance, avec une fameuse danse de Denis Lavant, citation directe dans un film récent d'ailleurs de Noah Baumbach, Frances Ha, où le cinéaste reprend quasiment la même chanson et quasiment la même scène. Enfin, c'est une citation directe du film de Léos Carax. On peut d'ailleurs également entendre un morceau de David Bowie dans Les Amants du Pont Neuf, Time Will Crawl. Donc Modern Love, Let's Dance, Léos Carax et Frances Ha.
France Musique.
I catch a paper boy.
Modern Love de David Bowie, de et par David Bowie, extrait de l'album Let's Dance initialement, mais qu'on peut entendre dans, notamment dans deux films, Mauvais Sang, donc de Léos Carax, avec cette fameuse course de Denis Lavant, et dans France et ça, plus récemment, de Noah Baumbach, aux citations directes du film de Léos Carax. Alors, c'est un bon album produit d'ailleurs par Nile Rodgers, le leader de Chic, qu'on a vu réapparaître dans, récemment dans l'album de Daft Punk, et qui apparemment prépare un nouvel album, donc on est assez content de voir réapparaître Nile Rodgers dans les parages. Alors on va terminer ce trop court survol de David Bowie au cinéma, mais l'émission ne sera loin d'être terminée derrière, avec du David Bowie en italien et en portugais. Alors la version italienne du Space Oddity, donc qui s'appelle Ragazza Solo, Ragazza Sola, par David Bowie, avec des paroles d'un certain Mogol, une chanson que j'ai pu découvrir grâce à Bernardo Bertolucci dans son dernier film. On en avait d'ailleurs parlé avec lui-même à cette occasion-là, l'année dernière, la saison dernière, puisque cette chanson, assez inconnue jusqu'ici, même si c'est David Bowie qui l'a enregistrée lui-même, figure dans la bande originale de ce film. Puis on écoutera également David Bowie en portugais, alors par Seu Jorge, le Brésilien Seu Jorge, qui a repris des chansons de David Bowie, on pourrait dire en live, dans le film de Wes Anderson, La vie aquatique, The Life Aquatic with Steve Zissou, le film, un des films que je préfère de Wes Anderson, avec évidemment Bill Murray, Owen Wilson, Angelica Houston et beaucoup d'autres, Kate Blanchett notamment. Et c'est très savoureux de voir Seu Jorge sur ce bateau, donc avec ce personnage inspiré par Cousteau, qui entonne des chansons de David Bowie en portugais ou en anglais. Ça fait partie du charme des films de Wes Anderson, mais d'abord David Bowie en italien.
La mia mente ha preso il volo, un pensiero uno solo. Io cammino mentre dorme la città, i suoi occhi nella notte. Fanali bianchi nella notte, una voce che mi parla, chi sarà? Dimmi ragazzo solo dove vai? Perché tanto dolore hai perduto senza dubbio un grande amore, ma di amore è tutta piena la città. No, ragazza sola, no, 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 stavolta sei in errore. Non ho perso solamente un grande amore, ieri sera ho perso tutto con lei, con lei. I colori della vita, la notte è un grande mare.
ti serve la mia mano per nuotare. Grazie, ma stasera io vorrei morire. Perché sai, negli occhi miei c'è un angelo che ormai non vola più, che ormai non vola più, che ormai non vola più. C'è lei, colori della vita, lei c'è di blu.
Mas o coração não consegue compreender, e a mente não faz questão, e nem tem forças pra obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul, pode ter vida em Marte. Então vem cá, me dá sua língua. Então vem, eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida. Então vem, vamos viver a vida. Então vem, senão não vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on não faz questão, nem tem forças pra obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. O infinito do céu azul, pode ter vida em Marte. Então vem cá, me dá sua língua. Então vem, senão vou querer quem sou. Meu poder vem do sol, minha medida. Então vem, vamos viver a vida. Meu bem, senão eu vou perder quem sou. Oh, 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 vou querer me mudar para uma life on Mars.
Yeah.
Carioca, c'est où Georges interprétait Life on Mars dans sa langue maternelle, c'est-à-dire en portugais du Brésil, pour le film de Wes Anderson, La vie aquatique. On se souvient des apparitions, enfin, de sorte de chœur que joue en direct, on pourrait dire, c'est où Georges dans le film. On le voit chanter, d'ailleurs, c'est pour ça que la prise de son est un petit peu fragile, mais c'est de la prise de son directe. Voilà, et auparavant, David Bowie himself, en italien, donc Ragazzo Solo, Ragazza Sola, version donc de 1969, comme le modèle original, Space Oddity en anglais, qui figurait lui dans la bande originale du film de Bernardo Bertolucci, Moi et toi, Io et te. Et c'est une version dont David Bowie lui-même ne se souvient pas très bien, mais en tout cas elle existe, on a pu l'entendre. Et d'ailleurs, avec le temps, je me demande si je préfère pas la version italienne. En tout cas, on peut aussi dire que Space Oddity figurait dans la bande originale d'un autre film l'an dernier, c'était le Bird People de Pascal Ferrand, où là on entendait la version originale sur un envol d'oiseaux. Enfin voilà, c'est fini pour David Bowie, c'était un peu bref, mais on a d'autres choses à faire dans cette émission. Et d'abord, la chronique de Charles-Pierre Vallière, Essentiel BO. Bonsoir Charles-Pierre.
Bonsoir Thierry.
Dites, oh, tu aimes ça la musique?
La musique? Ah oui, j'aime ça, surtout après un bon déjeuner.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, il est question dans cette chronique de la bande originale du film Good Kill du réalisateur Andrew Niccol, sorti hier sur les écrans. Alors Good Kill, l'histoire du commandant Tommy Egan, interprété par Ethan Hawke, donc ex-pilote d'avion de chasse, dont le travail est maintenant en fait d'envoyer et de guider des missiles tirés à partir de drones pilotés dans une base aux États-Unis, non loin de Las Vegas, et les cibles qui sont la plupart du temps humaines, eh bien se trouvent-elles en Afghanistan. Alors Andrew Niccol fait des films avec des
plus
sujets...
Plus loin que American Sniper.
Absolument. Et donc, Andrew Niccol fait des films qui ont le mérite souvent de questionner, en tout cas, le spectateur, si pas de le déranger. On se souvient justement, par exemple, de la sélection génétique dans un futur proche, dans Gattaca, ou encore du trafic d'armes organisé par les pays riches aux dépens des plus pauvres dans Lord of War. Et après, donc, s'être dispersé un petit peu pour Time Out et The Host, eh bien, il revient à ce genre de cinéma dans Good Kill, avec, donc, comme sujet principal, la guerre, mais une guerre aseptisée, dépersonnalisée pour des pilotes qui justement sont des pilotes de drones et ne sont plus directement confrontés à leurs ennemis. Et donc la musique de Good Kill est du compositeur canadien Christophe Beck. Alors Christophe Beck, qu'on le connaît puisque c'est lui qui avait fait la musique de La Reine des Neiges, de Edge of Tomorrow. Plus récemment, il va faire la musique de Ant-Man, enfin plutôt il l'a composée et ça va sortir bientôt en juillet prochain. Et donc pour Good Kill, Beck compose une bande originale qui donne en fait le sentiment d'être peu présente, on l'entend hein, quand même, hein. Mais elle comporte en fait un motif mélodique qui est lui bien identifiable et qui est décliné de manière assez sporadique, parfois dilué au milieu d'un flot de musique ambiante, électro, sans pulsation vraiment marquée. C'est pour ça qu'on, des fois, on le perçoit pas toujours. Et on trouvera justement aussi une mélodie qui rappelle un peu ce pays afghan. Donc des musiques aussi qui là cette fois-ci sont plus typées US, enfin United States, pardon, pour justement avoir cette opposition entre l'Afghanistan et les États-Unis. Et donc Beck utilise comme ces musiques comme des ombres en fait dans cette BO indistinctes, comme des fantômes qui hantent l'esprit justement du commandant qui tire ses missiles. Un extrait de la bande originale du film Good Kill composé par Christophe Beck pour le film donc d'Andrew Niccol. Dans ce film, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est la manière dont la musique est articulée avec les images. Parce qu'en fait, il y a alors deux façons pour Niccol de le faire dans ce film. Il joue beaucoup sur la relation musique diégétique, musique non diégétique. Alors on a des musiques préexistantes qui souvent sont utilisées justement dans un univers qui est celui des États-Unis où le personnage n'est pas dans cette espèce de camion dans lequel justement il va tirer ses missiles. qui partiront des drones. Ça, c'est justement la musique diégétique, donc qui est perçue à la fois par le spectateur et aussi par les personnages. Et puis tout ce qui est non diégétique, là, eh bien, c'est essentiellement associé aux pensées de ce personnage. Et puis il y a un autre élément qui est assez important, c'est l'utilisation du contrepoint dramaturgique. Alors c'est une façon assez singulière de l'utiliser pour Nicole, parce que souvent, alors ce contrepoint dramaturgique, une de ses facettes, une de ses articulations, c'est de produire un effet de distanciation. Alors distanciation pas tout à fait à la façon de Bertolt Brecht, mais on s'en rapproche un petit peu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette distanciation d'habitude amène à avoir un regard critique. Il le faisait d'ailleurs dans Andronicole dans Lord of War, mais dans Good Kill, c'est pas tellement le cas. Et bien, ce qu'il fait grâce à cette musique et cet effet de distanciation, et bien, c'est de créer une sorte de passivité, de fatalité en fait, devant ces assassinats ciblés par des drones justement en Afghanistan, malgré les victimes collatérales. Donc on ne se révolte jamais, on est un peu dans l'état de ce pilote qui justement eh bien accepte les ordres qu'on lui impose, et qui, même si ça ressemble à des jeux vidéo, eh bien ce ne sont pas des jeux vidéo. Et c'est justement vraiment le point fort de ce film, et cette relation qui existe entre la musique et l'image. Un autre extrait de la bande originale du film Good Kill, composé par Christophe Beck, donc avec une articulation de la musique et des images vraiment très intéressantes, hein. Donc une bande originale au final qui est très agréable à écouter et qui est disponible chez Lakeshore Records, même si c'est une bande originale très atmosphérique, très planante, Thierry. Hein.
Ben merci Jean-Pierre, on a effectivement entendu ce côté atmosphérique dont vous parliez. On vous retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Essentiel BO. Et maintenant on va partir à Aubagne, pas loin de Marseille, à une trentaine de kilomètres, où a eu lieu vers la mi-mars, comme chaque année, le Festival International du Film d'Aubagne, qui est en réalité un festival très largement tourné vers la musique. Enfin la musique de film, bien sûr, on s'en est déjà fait l'écho à plusieurs reprises dans chaque année d'ailleurs dans Cinéma Song. Et c'est un festival où on peut croiser des compositeurs. Cette année, il y avait notamment Jean-Michel Bernard, Éric de Marsan, Rob, que j'ai rencontré d'ailleurs sur place et à qui nous consacrerons une émission bientôt, ou les frères Evgeny et Sacha Galperine, par exemple. On y croisait également Benoît Basirico, qui n'est pas compositeur, mais qui sera bientôt avec nous tout à l'heure. Et également, parmi les événements du festival, il y a comme chaque année une masterclass, c'est-à-dire une réunion de jeunes compositeurs, sous la direction d'un compositeur plus chevronné, qui était cette année Marc Marder, le lauréat du prix France Musique SACEM l'année dernière pour sa musique pour l'image manquante. Et c'est lui qui a dirigé donc pendant une dizaine de jours. Ces jeunes musiciens sont réunis autour d'un chef et ils vont produire à la fin du festival un spectacle avec des musiques pour des courts-métrages muets, un Chaplin et d'autres. J'ai rencontré Marc Marder et on va écouter quelques extraits des répétitions de cette masterclass remarquable cette année, à laquelle on a pu assister Bruno Rioux-Maillard et moi-même sur place donc à Aubagne, Marc Marder et la musique.
Thank you. a 12 jeunes que j'ai choisis sur dossier sur 105 candidats. C'était une géométrie très difficile parce qu'il fallait choisir les musiques que j'ai appréciées sur dossier en sachant qu'à la fin de ce séjour, il fallait aussi que ces mêmes compositeurs interprètent eux-mêmes la musique. Alors il fallait aussi essayer de décerner un certain niveau de jeu et de jouer ensemble, en fait, par leur expérience sur dossier. Après, en arrivant ici avec les candidats choisis, en fait, j'ai su que c'était le programme. Et là, je me suis dit, si je trouve un jour la personne qui a eu cette idée, il va m'entendre. Parce qu'en fait, ça recrée en réel le cauchemar d'un compositeur de film. C'est un métier extrêmement solitaire pour le boulot. Et là, on est 13 dans la même pièce de compositeur. Ça recrée la pression et le stress comme si on était dans un studio d'enregistrement pendant 10 heures par jour, pendant 10 jours. Et on arrive, et comme dans un cauchemar, il n'y a rien à la page. Il faut tout inventer dès le départ. Et c'est... c'est sérieux comme question, c'est terrible. Mais on a dit il y a un boulot à faire, on a fait. Et pardon, mais j'ai aussi découvert les niveaux là sur place un peu. Je savais il y a des gens avec très diplômés des conservatoires. Il y a des gens déjà musiciens professionnels. Quelques-uns, et il y a des gens qui lisent même pas la musique. Voilà, on était là.
Justement, avec ces différences de niveau, ces différences d'expérience, ces différences de formation, comment vous harmonisez tout ça dans une espèce de création collective pendant 10 jours?
Le premier matin, on s'est rencontrés le premier jour, et le premier matin, je crois, ils ont jeté quelques idées. On a commencé... sur le Chaplin, le film le plus long, au départ. Et on était tous dans la même pièce et ils ont lancé des idées et j'ai corrigé un peu le tir. Alors pour le départ de la thème qui est très simple, j'ai lancé une petite idée et on a décidé les scènes, on a composé tout ensemble un claviériste, comme on dit, un joueur de clavier, a lancé un thème pour le thème d'amour, un autre a lancé un autre thème pour une autre séquence, et petit à petit, on a construit ce film. Des modulations tout ensemble, les harmonies, les tempi, etc. Et pour les effets, où est-ce qu'il est, les effets, ils sont extraordinaires, ces gens, parce que les effets tombent où il faut tomber, ils ont un petit time code, mais... Non, le Chaplin, c'était comme ça, on a tous travaillé ensemble. Après, j'ai pensé que pour le dessin animé, c'est vraiment en 8 panneaux, en 8 scénettes, comme ça, qu'ils travaillaient par groupe, en fait, pour le deuxième film. Il y avait 8... j'ai écrit l'introduction, et il y avait des groupes qui ont écrit les 7 autres scènes. Et pour le dernier film... On faisait juste l'intro ensemble et le reste, ils ont individuellement écrit pour le reste du groupe. Et là, après une semaine d'être ensemble, ils savaient le jeu des autres. C'est très intense et extraordinaire comme expérience.
Thank you.
Est-ce qu'il y a un risque, disons, pour un compositeur comme vous, mais d'autres l'ont fait avant vous, de faire écrire ou de faire jouer sa propre musique, entre guillemets, de faire aller les jeunes compositeurs, les jeunes musiciens, vers ce qui vous est propre, ou au contraire, est-ce que vous essayez de les pousser vraiment sur ce que eux, ce que pourrait être leur identité à eux?
Il n'y a pas de problème pour jouer ma musique du tout, parce que on voit dans le film où ils ont tous écrit une scénette ou en groupe, c'est des choses extrêmement variées, de l'électronique à la classique, au débutiste, vraiment, c'est étonnant, j'étais étonné d'entendre ça, et même dans la Lésienne, les gens avec moins d'expérience qui ont écrit des choses plus simples, plus Mickey Mouse ou à l'image, et les autres qui ont écrit des choses très fluides, j'ai laissé, il faut laisser tout. Ce qui marche, j'ai amené mon goût très développé, mais une sorte d'idée, en disant non, vous pouvez pas faire ça là, vous pouvez pas faire ça là, en essayant de les diriger un peu.
Est-ce que le fait que vous aviez travaillé sur un film muet contemporain, Sidewalk Stories de Charles Lane, ça a été un atout, puisque là vous travaillez sur des films muets, précisément, c'est un genre maintenant ciné-concert qu'on connaît, mais est-ce que ça a été un atout finalement, cette expérience qui date déjà d'un moment, mais pour diriger cette masterclass?
Oui Thierry, ça m'a aidé énormément. Parce que j'ai beaucoup appris avec Charles Lane, qui avait fait le film, et on apprend vraiment, spécialement dans le Charlot et dans les trucs extrêmement vaudeville et tarte à la crème, qu'il faut vraiment faire des effets, il faut être très fort dans les effets, et ça a beaucoup aidé. Même au Louvre, j'avais fait plein de films muets avec même contrebasse et saxo, ou un film avec 6 musiciens très écrits, direct avec le film. J'ai essayé d'amener mon expérience là pour eux, parce que c'est pas du tout évident non plus pour eux de jouer pour un film qui ne bouge pas. Ils sont là à jouer, ils ont jamais fait ça. Alors j'ai essayé de les parler tout le temps, de les parler de comment il fallait faire, oui, de mon expérience.
Est-ce que justement la parole est très importante dans ce genre d'expérience, sachant que c'est des gens que vous connaissez, enfin je sais pas si les gens se connaissent avant, mais a priori j'imagine que non, peut-être certains oui, vous les connaissez pas, quel type de dialogue vous arrivez à nouer dans ce contexte-là?
Parole extrêmement importante. Juste, on écoute, on juge pas, mais on écoute, on pousse des questions de goût, des questions qu'il faut faire. Parole est extrêmement importante. On se connaissait pas du tout. Personne se connaissait, en fait. Et après 2 jours, c'était comme ils avaient vécu ensemble depuis 10 ans. C'était extraordinaire, ça. Parce que, oui, c'était extraordinaire. Et la parole, les déjeuners ensemble, la vie en commune, c'est extrêmement important, Thierry.
Est-ce que si on vous demandait de refaire cette expérience à un autre moment, vous diriez oui, ou est-ce que c'est finalement une chose qu'on peut faire qu'une seule fois, tellement c'est prenant, épuisant, absorbant, parce que c'est quand même intense, quoi, d'une certaine façon?
Oh, c'est d'une intensité extraordinaire. Mais oui, je ferais volontairement. J'adorais. En fait, à la fin, je peux... Ouais, après le concert, je dirais mieux, mais c'était vraiment un grand découvert, et c'est une magnifique initiative d'Aubin, de la SACEM qui le soutient, c'est extraordinaire. Je crois, parce qu'on dit, c'est pas des classes, c'est pas des classes parce qu'on a un but d'un concert. Alors c'est pas moi devant une classe qui montre que l'orchestration est pas bien, mais c'est dans la nécessité, on prend une orchestration qui marche pas et on dit mais ce serait mieux avec des cordes là ou plus d'intensité là. Et parce que sur tous les niveaux compositionnels et interprète, c'est génial.
Thank you.
une séquence consacrée à la masterclass de l'excellent Festival d'Aubagne, masterclass donc dirigée par Marc Marder, compositeur d'origine américaine mais qui vit à Paris depuis pas mal d'années. Il avait été soliste de l'ensemble intercontemporain et de l'Orchestre National de France et compositeur attitré notamment des films de Riti Pan. Il a un film à Cannes d'ailleurs, vous me le signaliez Benoît Basirico, un film indien, Un certain regard, et voilà, qui évoquait cette expérience intense avec quelques petits extraits musicaux captés par mon réalisateur Bruno Rioux-Maillard pendant les répétitions l'après-midi, donc le samedi après-midi, avant la soirée de clôture du Festival d'Aubagne. On y reviendra sur le Festival d'Aubagne lors d'émissions suivantes futures avec Rob ou avec les frères Galperine. C'est l'heure maintenant, pour terminer ce menu copieux, donc de la chronique mensuelle de Benoît Basirico au micro de Cinésique. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Thierry. La chronique au micro de Cinésique a sélectionné pour vous 4 BO de février, 4 compositeurs à découvrir dans les salles de cinéma. Laurent Pérez-Delmar, Béatrice Thirier, Jérôme Lemonnier et Peter Von Paul. Commençons par un film à l'affiche depuis le 8 avril. Pourquoi j'ai pas mangé mon père, premier film de Jamel Debbouze. Laurent Pérez signe la musique de ce film d'animation tourné en motion capture. Le compositeur français n'est pas sur son premier dessin animé, puisqu'il avait signé la musique de Zarafa avec une girafe en 2012 et Loulou l'incroyable secret avec un loup et un lapin en 2013. D'après le musicien, Jamel a un vrai sens de la musique à l'image, avec des références américaines, une volonté de rythmer ses blagues en musique. Écoutons le thème principal qui témoigne d'un certain lyrisme avec l'utilisation des voix, laissant entendre comme un hymne. À l'instant, musique de Laurent Pérez pour Pourquoi j'ai pas mangé mon père, le film de Jamel Debbouze, sorti donc le 8 avril et non en février, comme j'ai pu le signaler. Et il ne s'agit pas du Roi Lion, contrairement à ce que me dit en régie Xavier, mais c'est vrai que ça peut y faire penser, il y a une influence comme ça d'Hans Zimmer dans la BO de Laurent Pérez. Continuons avec un autre film à l'affiche depuis le 8 avril, toujours, L'Astragale, second film de Brigitte Sy. C'est sa première collaboration avec Béatrice Thirier, compositrice réputée chez Pascal Ferrand, nommée au dernier César pour Bird People. Pour cette histoire d'amour entre Laila Bekti et Reda Kateb, deux désaxés sortis de prison, Béatrice Thirier propose le thème d'une passion amoureuse. Pour ce couple en cavale qui attrape quelques instants de bonheur, la compositrice a cherché une musique fusionnelle qui donne le frisson au spectateur, avec un piano et un violon correspondant à leur dialogue. Elle a voulu que la musique nous serre un peu le cœur, et elle y parvient, aidée par l'interprétation du grand violoniste Laurent Corsia. « Magnifique musique signée Béatrice Thirier pour l'Astragale de Brigitte Si. Cette musique est disponible en digital chez Crystal Records. Maintenant, sorti le 15 avril, En équilibre, le nouveau film de Denis Dercourt qui retrouve son compositeur fétiche, Jérôme Lemonnier, après La tourneuse de page, Demain dès l'aube, La chair de ma chair et Pour ton anniversaire. Comme dans chacun de ses films, une actrice joue du piano, c'est Cécile de France dans ce film, qui interprète Liszt au piano après des années sans pratiquer l'instrument. Tandis que Albert Dupontel ne peut plus monter à cheval après un accident. C'est leur histoire d'amour, mais c'est aussi un film sur l'accomplissement de soi. Avec un tel sujet, pour Jérôme Lemonnier, le compositeur, il y avait deux écueils à contourner. Celui du mélo lié à l'histoire d'amour et celui de la compassion devant le handicap du personnage. C'est une musique en équilibre. Pour reprendre le titre du film, le compositeur devait trouver le centre de gravité de la musique pour qu'elle ne soit ni trop triste, ni trop fleur bleue. Le thème « Florence à cheval » de ce film en équilibre. Musique de Jérôme Lemonnier pour En équilibre de Denis Dercourt, musique disponible chez Studio Canal depuis le 10 avril en digital. Pour terminer, voici une avant-première qui sera sur les écrans le 6 mai prochain. Lady Grey avec Jérémy Régnier, le réalisateur Alain Chocard aborde la question raciale en Afrique du Sud et pose une question universelle, comment vivre ensemble? L'artiste rock Peter Van Paul signe la musique de ce premier film. Pour ce drame, situé en Afrique du Sud, le réalisateur ne voulait surtout pas d'une musique typiquement sud-africaine. C'est en écoutant le dernier album de Peter Van Paul qu'il s'est décidé de lui montrer des images du film. Il lui a dit « Je veux une mélodie simple et répétitive qui pourtant évolue sans cesse avec de nouveaux instruments solistes qui arrivent. » Thank you. la musique de Lady Grey, signée Peter Von Paul. Le film sort le 6 mai, donc rendez-vous dans les salles pour découvrir l'intégralité de cette partition. Voilà pour cette chronique, et on se retrouve le mois prochain depuis le Festival de Cannes, je crois, Thierry.
Absolument, vous serez là-bas, et donc moi j'y serai pas, donc comme ça on pourra faire quelque chose comme on l'avait déjà fait l'an dernier, ou l'année d'avant d'ailleurs, en duplex avec Cannes. Vous pourrez nous raconter un peu ce qui s'y passe, et notamment sur le plan musical, qui n'est pas forcément l'aspect dont on parle le plus en général au Festival de Cannes, sauf exception évidemment. Il y a un documentaire sur Amy Winehouse par exemple, donc là la question se posera forcément. Ce soir donc, j'étais en compagnie de Dorothée Goll, François Pron, Charles Barjou et Xavier Atto notamment. C'est bien évidemment l'excellent Bruno Rioux-Maillard qui réalisait, comme chaque semaine, cette émission. Alors, j'ai peut-être dire un mot des programmes, parce que la grève a un peu bouleversé les choses, et le site n'est pas entièrement remis à jour pour l'instant, mais ça va venir. Et donc, la semaine prochaine, on parlera de Michelangelo Antonioni et de ses héritiers. Et les semaines suivantes, on parlera de Serge Gainsbourg et de ses musiques de films à l'occasion de la réédition, enfin de la nouvelle édition d'un coffret consacré aux musiques de films de Serge Gainsbourg, avec pas mal d'interviews de protagonistes qui ont travaillé avec Gainsbourg.